Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Au début, elle est plutôt enthousiaste et heureuse d'être arrivée dans ce service de psychiatrie comme jeune interne, d'avoir réussi, d'être tombée sur des sujets qu'elle connaissait au concours. Mais rapidement, quand quelqu'un dit « docteur », elle cherche des yeux à qui cette personne s'adresse. Elle est prise de vertige à l'idée de poser un diagnostic. Elle se voit sommée de fournir des réponses précises, des posologies, des prescriptions, des solutions à des questions qu'elle maîtrise mal et dont bien souvent elle ne sait pas grand-chose. Elle a peur de se tromper. Très vite, elle souffre du syndrome de l'imposteur. Elle ne se sent pas légitime, pas crédible. Plus tard, quand elle aura tout plaqué pour faire de la BD, elle racontera ça avec humour. Pour l'instant, elle remarque bien que ses consoeurs et confrères font parfois semblant de savoir, se protègent avec des pseudo-certitudes, des automatismes, des trucs appris par cœur. Mais elle n'y arrive pas. En médecine, on perpétue de vieilles traditions, dit-elle dans une interview au Monde, presque militaire, avec un féroce esprit de compétition. Il faut rester seul avec ses incertitudes, ne jamais crever l'abcès. Durant ses 4 années de stage en psychiatrie, elle découvre aussi combien cette discipline est hétérogène. Elle regroupe des théories, des chapelles, des approches très différentes, voire contradictoires. Telle pratique, louée ici, est moquée ailleurs. Tel concept, adopté dans un service, est considéré comme inopérant dans un autre. La psychiatrie n'est pas une science exacte. Son album de BD s'appelle « Le syndrome de l'imposteur » et elle, c'est Céline Lemen. Et nous, tout de suite, on raconte 2 histoires qui auraient pu s'y trouver dans cet album, dans le milieu de la psychiatrie, et elles sont racontées par Claudia Prolongeau.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Diane, j'ai 21 ans, j'habite à Paris mais je fais mes études à Lyon. À la fin de cette année, au mois de mai, j'ai dû me réinstaller chez mes parents à Paris pour l'été, enfin pour au moins les 3 mois d'été. Or, ça se passe pas très bien avec mes parents pendant les 2 premières semaines, enfin je crois que chacun a un peu fait des efforts, mais c'était vraiment compliqué puisque j'ai même plus de chambre chez mes parents comme on est une famille nombreuse, j'ai plus d'espace à moi et donc je me sentais vraiment pas trop à ma place. Et en fait, au bout d'un mois, je suis arrivée à saturation et tout le monde un peu est arrivé à saturation. Ça a abouti à une grosse crise à la fin du mois. En après-midi, je me suis disputée avec mes sœurs. J'ai décidé d'envoyer un message sur la conversation WhatsApp de ma famille, juste avec mes parents et mes sœurs, en disant « voilà, je vais mettre fin à mes jours cet après-midi. J'en ai trop marre de cette famille, j'en peux plus. Adieu ». Ce moment de ras-le-bol, de boule de nerfs, il a duré, je pense, 15 secondes. Mais juste après, j'étais tellement en colère encore que je voulais aller au bout du truc. Et donc, j'ai pris mon sac avec mon ordi, mon chargeur, mon téléphone, mon chargeur de téléphone, un truc à manger, mes clés, enfin, une culotte de rechange. Bon, clairement, j'allais pas partir me suicider. Mais je voulais quand même marquer le coup. Enfin, je sais pas, un peu pousser un cri qu'on m'écoute pour de bon. Je suis partie. Je suis juste descendue m'asseoir en bas de chez moi, sur les quais. Et j'ai pleuré pendant 2 heures. Il y avait mon téléphone qui sonnait. Et à chaque fois, je refusais les appels. Finalement, vers 21h, je me dis, bon, faudrait peut-être que je rentre. Là, c'est bon, j'ai fait assez fort. Et donc, j'arrive à la maison. Mon père m'attendait sur le pas de la porte. Je pose mes affaires dans l'entrée et je vais direct me coucher. Je suis redescendue pour me faire une soupe dans la cuisine. Et là, enfin, j'étais assise en train de boire mon vieux truc à la crevette asiatique. Et mon père, littéralement, me saute dessus. Et il me dit « Oui, Diane, c'est super grave ce que t'as fait. Ça va pas tenir des propos comme ça. Il faut qu'on en parle. Il faut vraiment que tu ailles voir quelqu'un et que tu te fasses soigner. Tu es vraiment malade. Tes sœurs, elles sont complètement traumatisées. » Et finalement, il me secoue et il crie sur ma mère en me disant « Appelle les pompiers, c'est bon, il faut que tu ailles à l'hôpital. » Ma mère pleure et dit « Non, mais moi, je veux pas appeler les pompiers, je peux pas faire ça. » Et moi, je pleurais en me disant « Maman, appelle pas les pompiers, s'il te plaît, appelle pas les pompiers, ça va, je vais juste dormir. » Finalement, ma mère sort de la cuisine, je me réassois, je continue à boire ma soupe, tout était calmé, on recommence un peu à parler avec mon père de manière plus apaisée. Et ma mère revient dans la cuisine et elle dit « Bon, bah, c'est bon, il y a les pompiers qui arrivent dans 5 minutes. » Les pompiers arrivent, Il y avait 6 pompiers, en plus en parka de feu. Enfin, ils se posent avec moi, ils me demandent de raconter ce qui s'est passé, donc je raconte. Et ils me disent, bon, oui, nous quand même, on a été appelés pour une crise nerveuse. Et puis, comme il y a eu des propos suicidaires qui ont été tenus, on est obligé d'appeler l'hôpital pour voir s'ils veulent vous recevoir. J'arrive aux urgences et puis vers 1h du matin, la psychiatre des urgences psychiatriques vient me chercher. Elle me dit « suivez-moi, on va se mettre dans mon bureau ». Je raconte ce qui s'est passé avec mes parents, mais aussi comment je me sens en ce moment et que je suis un peu déprimée, mais que ça va. Et quand je raconte tout ça, que je suis quand même en train de me confier, elle me regarde jamais dans les yeux, elle regarde des trucs sur son ordi, elle clique sur plein de choses, elle tire sa poubelle vers elle et elle farfouine dans sa poubelle en sortant plein de papiers, en les dépliant, en les balançant dans tous les sens. Elle décroche son téléphone plusieurs fois. Parfois c'était des coups de fil médicaux, enfin à l'intérieur de l'hôpital, et parfois c'était des coups de fil « Ah oui, tu veux partir en Martinique avec tes enfants ?» C'est super sympa. Après, ils sont peut-être un peu jeunes pour un vol en avion aussi long. Et puis, elle raccrochait, elle me regardait. Elle disait « Vous étiez en train de dire quoi ?» Et puis, même parfois, elle sortait de son bureau sans me dire « Attendez, je reviens. » Puis, elle revenait et elle me coupait dans ce que j'étais en train de dire au plein milieu de mes phrases. Et puis, elle dit « Bon, je vais appeler votre papa pour savoir ce qu'on fait de vous. » Mon père arrive et dès que mon père rentre dans la pièce et s'installe à côté de moi, moi je me sens d'un seul coup hyper mal, de nouveau complètement sur la défensive. Et là, la psychiatre demande à mon père ce qu'il pense de mon état, de ce qui s'est passé. Mon père répond assez calmement, voilà, moi je pense que Diane, il faut qu'elle rencontre un médecin et qu'elle soit suivie par un médecin pour qu'il y ait un diagnostic qui soit posé et qu'on puisse prendre le problème vraiment en charge. Je regarde mon père et je me mets à pleurer en me disant mais ça va pas de dire ça, enfin, je suis pas malade. Et là, la psychiatre me coupe la parole en me disant Pep, c'est pas toi qui décide en fait ici, c'est moi le médecin, donc c'est pas à toi de dire si t'es malade ou pas, c'est moi qui décide. Je la regarde et je lui dis « Non mais attendez, vous êtes quel genre de psychiatre ? Vous m'avez parlé 10-15 minutes en fouillant des papiers dans votre poubelle, vous m'avez à peine écouté. » Et là, clairement, elle a été vexée. Elle m'a dit « Ok, vous êtes hyper agressive, ça va pas de me parler comme ça. Je vous ai fait un traitement de faveur en vous recevant dans mon bureau. Rébellion contre l'institution, on vous hospitalise, vous restez ici ce soir. » Elle se lève et elle me dit « Bon, vous allez me suivre. » Donc là, moi j'étais sur ma chaise et je lui dis non, je veux rentrer chez moi, je veux pas être hospitalisée. En plus, moi je regarde mon père avec des yeux de biche en mode papa, s'il vous plaît, je veux rentrer à la maison, pitié, me laissez pas ici, je veux juste dormir dans mon lit et on en reparlera demain et ce sera réglé. Finalement, elle m'emmène avec des aides-soignants qui me disent « Bon, vous nous donnez tous vos vêtements. » Et là, ils me donnent une combinaison plastique pas fermée derrière, enfin à part avec un petit nœud. Ils me disent que je peux même pas garder mes propres sous-vêtements. Je suis les aides-soignants, complètement en pleurs. Et là, il y a une infirmière qui m'accompagne. Elle me met dans une pièce, parce qu'on ne peut pas vraiment appeler ça une chambre, avec juste un lit, j'avais pas d'oreiller, et il y avait rien dans la pièce, il y avait juste le numéro de la chambre, pas d'interrupteur, pas de télévision, enfin j'avais aucune affaire à part mon livre, et l'infirmière part, et elle ferme la porte à clé, sans qu'on m'ait dit, on va t'enfermer dans une pièce à clé, juste elle part en me disant, t'as un bouton ici si tu veux nous appeler. Je me mets à fondre en larmes, je pouvais pas m'arrêter de pleurer, l'infirmière revient en disant, il faut que t'arrêtes de pleurer parce que sinon il va t'arriver des bricoles, il faut que tu dormes, parce que sinon c'est la psychiatre qui a gagné, elle va dire que t'as vraiment des problèmes psychiatriques et ça va mal tourner pour toi. On me dit demain matin, il va y avoir un médecin qui va venir pour te voir et qui va réévaluer, qui va t'examiner, mais d'ici là il faut que tu dormes. J'arrivais pas du tout à dormir, finalement je réussis à m'endormir, mais j'ai dû dormir une heure et demie, enfin j'avais aucune notion du temps. Au moment où je me réveille, j'appuie sur le bouton en me disant « Bon, voilà, ça y est, c'est le matin. » Là, il y a une infirmière qui vient. Je dis « Bon, voilà, ça y est, j'ai dormi. On fait quoi ? Quand est-ce que mon papa arrive pour venir me chercher ? Il arrive quand, le médecin ? Quand est-ce que je le vois ?» Et là, on me dit non, il est 6h30, tu te rendors, c'est pas du tout l'heure, il faut que tu te rendormes. Je réappuie sur le bouton pour redemander quand est-ce que mon père peut venir me chercher, est-ce que je peux lui téléphoner. Chaque moment où la porte s'ouvrait, les infirmiers, ils venaient, ils passaient 4 secondes dans ma chambre et la porte, elle se refermait à clé. Et c'était horrible parce que chaque interaction humaine durait 36 secondes. Et c'était trop difficile. Dès que la porte se refermait, j'avais envie de réappuyer sur le bouton pour que juste quelqu'un vienne discuter avec moi. Une demi-heure plus tard, j'avais envie d'aller faire pipi. Et du coup, je réappuie sur le bouton. Et là, l'aide-soignante rentre dans la pièce. J'ai pas eu le temps d'ouvrir la bouche et de parler. Et elle me crie dessus en me disant « Tu fais chier maintenant, tu fermes ta gueule, ça suffit, ça fait 8 fois que t'appuies sur le bouton, tu déranges tout le monde dans le service, on n'a pas le temps de s'occuper de toi, et si tu continues à pleurer, on va vraiment mettre dans son dossier que t'es folle et tu vas finir à l'asile. Donc maintenant, tu nous laisses tranquille. » Et elle part, la porte se referme. Du coup, j'avais pas le choix de juste faire ce qu'on me dit. Et je me sentais complètement piégée. Et toutes les heures que j'ai passées enfermée dans la pièce à clé, je me souviens que je fixais la serrure et je comptais chaque seconde jusqu'à 60 pendant des heures. 1, 2, 3, 60. Pendant mais des heures et des heures en me disant plus que 2 heures. On m'a dit que c'était à 8 heures que le médecin y venait. Il est 6h30 du matin, je vais compter jusqu'à 8 heures. Et il y avait des moments où je devenais complètement hagarde de sommeil. Je m'endormais et au moment où je m'endormais, je faisais des cauchemars où on me gavait de médicaments, où on m'attachait, où on me lobotomisait le cerveau, où je restais des années internée en psychiatrie, qu'on me prenait pour une hystérique et que plus personne m'écoutait. Et qu'en fait, à force, je devenais véritablement folle parce que personne m'écoutait. Finalement, il y a un médecin qui vient me voir le matin. C'était un interne. Il était hyper sympa. Mais il passe 5 minutes avec moi et puis il a juste pris ma tension. Et je lui dis quand est-ce que c'est fini. Et il me dit je sais pas. Finalement, à 10h30, la porte s'ouvre et ma mère rentre. J'étais dans un état second. Je lui saute dans les bras en pleurant. Donc ma mère me voit dans cet état. Du coup, elle aussi se met à pleurer. Elle me fait un câlin. Puis après, elle s'assoit à côté de moi et on parle et je lui raconte ce qui s'est passé. Là, elle me passe mon père au téléphone qui me dit « Il faut que tu nous fasses confiance, on va te sortir de là. » Enfin, il s'est un peu rendu compte que ça avait dérapé. Ma mère va voir le médecin pour savoir quand est-ce que je peux sortir. Donc là, j'attends. Et ma mère revient et elle me dit « Bah, en fait, non, je peux pas te ramener à la maison. La psychiatre d'hier soir... » Elle avait signé un papier pour qu'à 14h, il y ait une ambulance qui t'emmène dans un centre spécialisé pour qu'ensuite, le personnel qui sera là-bas te prenne en charge et décide si tu dois rester hospitalisé ou pas. Moi, je rentre à la maison et je viendrai à 14h dans le centre. Et il était 10h30. Et là, la porte se referme. Enfin, même scénario, je me remets à compter chaque minute en disant « c'est pas possible, hein. Je ne vais pas encore passer 4 heures ici ». Là, il y a quelqu'un qui vient et qui me dit « On va faire une toilette de lit ». Je lui dis « Mais moi, je veux pas faire une toilette de lit ». Elle me dit « Ah, vous voulez prendre une douche ?» Donc je lui dis « Bah oui, je veux bien prendre une douche ». On va en face et elle m'accompagne et en fait, elle m'a douchée. Enfin, c'était tellement avilissant et infantilisant. Enfin, c'était horrible. Et le pire, c'est qu'à la fin de la douche, il n'y avait pas de serviette et j'ai dû m'essuyer avec du papier toilette. J'avais deux petits lambeaux de papier qui étaient restés collés sur ma peau. Enfin, je retourne dans mon lit et là, je me remets à compter jusqu'à ce que vers 13h30, il y ait deux ambulanciers qui viennent me chercher. Et on me dit, tu peux venir avec nous, on va t'emmener dans le centre. Là, on m'apporte mes habits qui étaient restés dans un sac poubelle, donc je peux enfin me rhabiller. Les ambulanciers m'emmènent, on va sur le parking, là c'était hyper agréable, je sentais le soleil et l'air, c'était fou comme sensation, j'avais... Alors qu'en soi, ça m'est déjà arrivé de rester chez moi pendant 14 heures à regarder des séries, mais juste là c'était pas la même chose. Et les ambulanciers me mettent dans le camion, et puis ils arrêtaient pas de répéter « Au feu rouge, t'ouvres pas la porte, tu t'enfuis pas », comme si j'étais une espèce de prisonnière qu'on emmenait en centre de détention. L'ambulancière, elle me dit « Non, mais tu sais, quand tu vas aller dans le centre, là, tu vas voir des psys et puis tu leur dis ce qu'ils veulent entendre. Et comme ça, ils vont te laisser rentrer chez toi, t'inquiète pas. » J'arrive dans ce centre, les ambulanciers me déposent, personne ne m'accueille. Il y avait une salle d'attente au soleil avec des canapés, des magazines féminins, des magazines de santé. Et puis, il y avait une coupure radicale avec l'hôpital qui m'a fait un peu du coup reprendre confiance et me dire, bon, en fait, peut-être qu'ici, les gens vont être à l'écoute et vont être doux avec moi. Je suis reçue ensuite par deux femmes qui me disent qu'elles sont infirmières et qui étaient adorables, super douces, qui me demandent ce qui s'est passé. Et elles me regardaient dans les yeux et puis elles me disent « Mais tu sais, t'es pas du tout malade, en fait, il n'y a aucun problème, c'est juste un conflit avec tes parents, ça va aller. » À partir du moment où j'ai compris que j'allais sortir, tout allait mieux. On a eu rendez-vous avec mes parents, enfin elles ont fait venir mes parents. On sort de ce centre et je vais retrouver un de mes amis pour prendre un verre. Là, je vais au bar, je commande une bière et il y a la police qui arrive, qui s'installe au bar en fait pour boire une bière à la fin du service. Et moi, le moment où la police est arrêtée et rentrée dans le bar, j'ai cru qu'ils venaient me chercher. Et j'arrêtais pas de me dire, mais c'est fou, là je vais devoir aller faire une thérapie pour traiter ce qui vient de se passer. Ça va être ça pendant longtemps, en fait. J'ai commencé à voir une psychologue en sortant de l'hôpital. Et je me suis dit que j'aurais plus jamais confiance en la psychiatrie. Enfin, en tout cas, je veux plus jamais retourner voir un psychiatre.
Pour dire deux mots de mon parcours, j'étais plutôt une bonne élève. Il y avait, je pense, dans ma famille une certaine fascination pour le milieu médical. Et moi, j'étais intéressée par les sciences, j'étais intéressée par les sciences naturelles. J'avais envie d'être savante. Pour moi, les médecins, c'était des savants, vu l'espèce d'idolâtrie qu'il y avait dans ma famille autour de ça. J'avais en tête, quand j'étais petite, de vouloir aider les enfants à aller bien. Je pense que c'est une envie qui aurait pu prendre la forme de plein de métiers. Potentiellement, à l'époque où je l'évoquais, je pense que ça pouvait se rapprocher d'une psychologue pour enfants, peut-être, d'aider les enfants à exprimer leur potentiel. Mais le mot et le concept qui m'ont été fournis par mon entourage, c'était pédopsychiatre. Et donc, la légende familiale veut que depuis que j'ai 8 ans, je dis « je vais être pédopsychiatre ». Arrivée au lycée, j'étais bien contente de pas passer par les galères de « qu'est-ce que je veux faire ? Une prépa, le dossier, le machin ». Moi, je me disais « c'est bon, je vais en fac de médecine, voilà ». Le chemin est tracé. La première année de médecine, c'était compliqué parce que j'ai appris ce que ça voulait dire travailler. Et ça, c'était un choc. Et la deuxième première année de médecine, là, j'avais compris ce qu'il fallait faire. Et c'était pour le coup satisfaisant parce que je sentais que ça fonctionnait. C'était des matières scientifiques poussées, intéressantes. J'aimais beaucoup. Et donc, là, c'était bien. Puis d'être motivée par le concours aussi, ça a fini par devenir stimulant. La spécialité de la psychiatrie, je l'avais choisie avec relativement d'évidence. Quand j'étais externe, j'avais fait plusieurs stages différents, comme tout le monde fait. Et j'ai fait un stage de pédopsychiatrie qui m'a énormément plu. Mais en fait, ce que j'aimais, c'était être avec les éducatrices spécialisées auprès des enfants, faire des activités avec eux. Et je me disais, ah mince, ça me dérange quand même qu'ils soient si malades. La maladie mentale et la maladie en général. J'aimais pas le rôle qu'avait le pédopsychiatre dans cette structure. C'est pas ça qui m'intéressait. Et j'ai réalisé qu'en fait, les pédopsychiatres, ils étaient plus avec les parents, que les représentations que j'avais de la pédopsychiatrie, ça correspondait pas tellement au cœur du métier. Chaque stage qui passait, en fait, ça se passait de moins en moins bien. J'ai fait un mini burn-out où j'ai eu un peu un effondrement nerveux, quoi, où j'enchaînais un peu des crises d'angoisse. Là, j'étais en arrêt une première fois. Et puis, je suis quand même repartie en stage. J'ai continué un peu bon an mal an. Et en me disant à moi-même, ce qui se dit entre nous, entre élèves dans le milieu médical, c'est « ça ira mieux après ». Ou les premières années, on se dit « mais ça ira mieux quand on sera à l'hôpital ». Puis après, on externe à l'hôpital et on se dit « oui, mais là, on a des tâches de secrétaire et c'est pas très gratifiant, mais ça ira mieux quand on sera interne parce qu'on sera vraiment médecin ». Et en fait, moi, je me suis retrouvée à un moment de l'internat à me dire « mais en fait, là, quand est-ce que ça va aller mieux ?» Et j'ai fait mon cinquième stage, donc le début de ma troisième année d'internat. Et pour le coup, j'ai vraiment fait un vrai burn-out à ce moment-là. Même physiquement, ça devenait compliqué d'aller à l'hôpital. Je n'arrivais à aller à l'hôpital qu'en séquençant mes actions le matin et en ne pensant pas que la finalité de mes actions, c'était d'aller à l'hôpital. Donc je me levais et je me disais, là je prends ma douche, je pense à rien d'autre. Là je m'habille, je pense à rien d'autre. Là je mets mon manteau, je pense à rien d'autre. Et je m'empêchais de penser que j'allais à l'hôpital. J'ai eu quelques jours où ça s'est passé comme ça. Et puis où finalement, j'ai vu mon médecin en urgence, il m'a dit, ok, là je t'arrête. Et en fait, j'ai été en arrêt sur toute la fin de ce stage, 4 mois. Pour dire à quel niveau j'avais pas conscience de la violence que je m'infligeais, du stress qui était le mien dans les études de médecine, quand j'ai choisi ce cinquième stage, la veille de ma rentrée dans ce stage-là, j'ai eu la mâchoire qui s'est bloquée. J'avais déjà eu des petits problèmes de mâchoire, mais enfin là, elle s'est bloquée et elle est restée bloquée pendant 1 mois et demi. Au quotidien, ça se voyait pas beaucoup, mais c'est juste que moi, ça m'handicapait pour manger. Et le premier jour de mon arrêt de travail, quand j'ai envoyé un message à mon co-interne pour lui dire que je venais pas ce jour-là et que j'allais voir mon médecin, mais que je serais peut-être arrêtée, 10 minutes après avoir envoyé ce texto, clac, ma mâchoire s'est débloquée. Ces 4 mois et demi d'arrêt de travail, ils ont été mes libérateurs parce que c'était la première fois depuis des années que j'avais mon temps à moi, que j'avais pas de contraintes académiques, que je me disais pas qu'il y avait en bout de parcours un concours, un mémoire, une thèse, des contraintes de choses à faire ou à apprendre. Et j'ai pas du tout été inactive pendant ce temps, c'est-à-dire qu'au début, évidemment, j'étais dans un truc de reconstruction où j'avais besoin de dormir énormément, de m'occuper de choses très basiques dans le soin de moi. Et puis après, au fur et à mesure que j'allais mieux, je retrouvais un peu ma disponibilité intellectuelle et émotionnelle. J'avais plus de place pour faire ce que je voulais faire. Et là, j'ai revécu. En plus, c'était la période du printemps, donc c'était hyper agréable. Je découvrais Paris, vraiment, qu'en fait, je connaissais pas. J'ai pris le temps de flâner dans Paris. En fait, prendre le temps de vivre, quoi. Je retrouvais une présence à moi-même où je pouvais écouter mes envies. Et ça faisait une éternité que je faisais plus ce dont j'avais envie. Et en fait, j'avais envie de faire plein de choses. Et notamment, ce truc de travailler avec les enfants est revenu me titiller. Donc je me suis remise à lire des bouquins en pédopsie, à lire Dolto. Et puis la fin de mon arrêt de travail arrivait, le moment où j'allais devoir choisir le prochain stage de médecine arrivait. Et j'étais vraiment dans une dynamique de je veux profiter de ma liberté tant qu'elle existe. J'en étais toujours pas à remettre en cause ce truc de reprendre médecine alors même que j'avais le sentiment de retourner au bagne. J'ai eu la chance de pouvoir faire appel à des connaissances dans le milieu de l'enseignement. Certaines institutrices m'ont ouvert les portes de leur classe. Et donc j'ai pu être en observatrice dans les classes. Et en fait, mais ça a été une révélation. Une révélation. J'ai pu prendre un peu aussi une place de transmission de savoir auprès des élèves qui, quand la maîtresse était occupée avec un niveau, les élèves de l'autre niveau venaient spontanément me voir parce que j'étais une autre adulte dans la classe. Et j'ai adoré ça. Et du coup, en quelques semaines, j'ai fait des démarches pour pouvoir obtenir une disponibilité en urgence. Voilà, l'administration a été franchement très compréhensive. Le bureau des internes a été vraiment à mon écoute. Ils ont pris le temps d'entendre ma démarche, etc. Donc j'ai pu avoir 6 mois de disponibilité en me disant « mais je vais mettre ces 6 mois à profit pour prendre une formation pour devenir prof ». Et puis je mets en stand-by la médecine, je vois si j'arrive à faire ce parcours pour devenir prof. Et en fait, là ça fait 1 an du coup que j'ai fait ce parcours. Et ma décision, elle est complètement prise. Évidemment, je reviendrai jamais en médecine. Ça m'est arrivé l'autre jour de reprendre un trajet que je prenais pour aller en garde. Et la pensée d'aller en garde, je me dis, mais comment j'ai pu réussir à faire ça? Comment j'ai pu survivre à cette angoisse-là? J'ai vraiment le sentiment que c'était une décision nécessaire d'arrêter médecine et que je me suis un peu sauvé la vie en arrêtant la psychiatrie.
C'était Service de psychiatrie, un reportage de Claudia Prolongeau réalisé par Anne-Laure Chanel. Merci à Diane, à Aurore, à Zoé et à Camille Richir qui est notre attachée de production en ce moment.
Feel the heart you can steal. Everything is so clear when the snow.